un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
L'affaire a fait la une des journaux à la fin du mois de juin, un fait divers à la fois sordide et inimaginable qui posait plus qu'aucun autre la question du consentement. Des dizaines d'hommes, de tous âges et de tous les milieux, 51, peut-être même 70, accusés d'avoir violé une femme inconsciente, soumise à leur volonté par le mari de celle-ci. Un couple de seniors, le mari prédateur, abatteur et la femme abusée, qui ont entre 60 et 70 ans au moment des faits, je le précise, car cela m'a paru une des circonstances les plus étonnantes de cette histoire atroce. Des suspects et une affaire qui ont donc défrayé la chronique, sans que l'on se demande cependant l'effet que cela peut faire d'être l'enfant d'un tel couple. Leur fille, en l'occurrence, s'appelle Caroline Darian et elle a vite décidé de sortir du silence, non pas pour se repaître de l'histoire de ses parents ou les livrer en pâture, mais pour dire sa douleur, sortir de sa condition de victime et agir. Elle publie dès 2022 un livre intitulé « J'ai cessé de l'appeler papa » qui qualifie entre autres son père de plus grand prédateur sexuel des 20 dernières années. Mais cela ne lui suffit pas à penser la plaie impensable. Alors, elle se met en tête d'agir, de prévenir et de militer et crée dans la foulée une association, enfin un mouvement, Mandorpa, qui vise à alerter et à informer le plus grand nombre ainsi que les professionnels de santé pour tenter, je cite le site justement de cette association, pour tenter de mieux prévenir, de protéger et d'optimiser la prise en charge des victimes de soumission chimique dans la sphère privée. Elle nous raconte aujourd'hui son parcours qui passe par le récit des faits et se poursuit jusqu'à son action aujourd'hui. Inutile de vous prévenir que cet épisode évoque des viols, des violences sexuelles et psychologiques à ne pas mettre entre toutes les oreilles, par Anna Benjamin.
Je m'appelle Caroline Darian, j'ai 44 ans, j'ai grandi à Gournay-sur-Marne, dans une résidence pavillonnaire, avec mes deux frères. On était une famille issue de la classe moyenne, avec une vie sociale assez riche. Voilà, on faisait tous du sport, on avait des amis, on partait en vacances. Le couple de mes parents, c'était un couple assez fusionnel, très complice. Ils se sont rencontrés jeunes, ils avaient à peine 20 ans tous les deux. Ils se sont très vite mariés, ils ont eu mon frère aîné très vite aussi. Mon père, je me souviens, m'emmenait à l'école tous les matins, m'emmenait à la danse, mes activités extrascolaires. C'était un papa assez présent, qui participait aux tâches de la maison, qui faisait à manger, le ménage. Mais mon père a toujours été un peu irresponsable sur le plan financier, par exemple. Ma mère, elle avait une situation stable, et heureusement d'ailleurs. Ils ont eu des gros problèmes d'argent avec les huissiers, etc. Donc, mais pour moi, j'ai toujours perçu une forme d'irresponsabilité chez mon père, mais surtout sur le plan matériel. En mars 2013, un an avant la naissance de mon fils, mes parents partent de la région parisienne, au moment de la retraite de ma maman. Ils partent vivre dans ce village du sud de la France, à 800 km de nous. Moi, j'appelle régulièrement ma maman. Avec mon mari, on prend pour habitude d'y passer à peu près 3 semaines l'été. Mes parents viennent en région parisienne aussi, à l'occasion des anniversaires des enfants, des uns, des autres, des fêtes de Noël. Et moi, je commence à noter un espèce de décrochage du côté de ma mère de temps en temps. Je la sens pas très en forme au téléphone. Rapidement, d'ailleurs. Ça commence courant 2013, mais c'est très ponctuel. On note qu'elle peut avoir parfois des propos incohérents. Et puis, plus les années vont passer, et plus ça va s'intensifier. On va noter de plus en plus au téléphone des moments où, quand on l'appelle, elle décroche pas, où c'est mon père qui décroche et qui nous explique qu'elle dort, à des heures où ça paraît bizarre. Donc, on est inquiet, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un début de cancer? Est-ce que ce n'est pas neurologique? Est-ce que ce n'est pas les prémices de la maladie d'Alzheimer? Enfin, on réfléchit à tout. Mais on est à 10 000 de se dire qu'elle est en danger dans sa propre maison, quoi. Puis en plus, l'après-midi ou le soir, quand c'est mon père qui décroche, il m'explique qu'elle s'est fait une grande balade avec sa copine Sylvie, dans la garrigue, qu'elle est fatiguée, qu'elle récupère. Évidemment, on lui fait confiance. Comment est-ce qu'on aurait pu penser à cette éventualité? On ne peut pas imaginer l'inimaginable. Le 2 novembre 2020, c'est un lundi, en début d'après-midi, mon mari va recevoir un coup de fil du commissariat de Carpentras. L'officier de police du commissariat de Carpentras va lui expliquer que sa belle-mère a été reçue ce matin pour lui expliquer que son mari la drogue depuis plusieurs années maintenant, pour abuser d'elle et la faire abuser par d'autres hommes, et que donc mon père vient d'être mis en garde à vue. Donc le premier en fait qui apprend la nouvelle, c'est mon mari. Et ce que va lui demander ma mère, c'est d'attendre la fin de journée, que je sois posée, que j'ai fini ma journée pour m'appeler et m'expliquer ce qui se passe. Donc en fait, mon mari, Paul, lui, va devoir garder ça pour lui, descendre, aller chercher notre fils et faire comme si de rien n'était, alors qu'il sait que c'est qu'une question d'heures pour que ma vie bascule totalement de l'autre côté. En fin de journée, je j'éteins mon ordinateur. Et donc, à 20h25, mon téléphone sonne, je décroche. Et ma mère me dit, écoute, Caroline, il faut que tu t'assoies. J'ai quelque chose de très grave à t'annoncer. Et à ce moment-là, je pense qu'elle va m'annoncer que mon père est décédé ou qu'il a eu un grave accident. Elle me dit, écoute, voilà, Caroline, j'ai passé une bonne partie de la journée au commissariat de police du commissariat de Carpentras. Et là, on m'a appris en fait que ton père me drogue depuis des années pour me violer et me faire violer par d'autres hommes. En fait, il rentrait en contact avec des hommes via un site de rencontre où il y postait des photos de ma mère dans des postures que je vous laisse imaginer. Et il proposait à ces hommes de venir profiter du corps de sa femme. Ils se mettaient d'accord sur une date, puisque évidemment ça nécessitait une petite organisation logistique, d'avoir les médicaments sous la main, de pouvoir droguer sa femme à son insu. Enfin voilà, ça s'orchestre, ça s'organise quoi. Il lui administrait ses médicaments dans sa nourriture, dans son café noir, parce que c'est des médicaments qui sont incolores et inodores. Ça pouvait être dans sa purée, dans ses pâtes, dans la sauce qui lie les légumes. Enfin, ça se mélange, quoi. Ce sont des somnifères, des anxiolytiques, voire même des antihistamiques. Et c'est l'alliance des anxiolytiques et des somnifères qui, écrasés dans la nourriture ou mis dans un verre, peut faire plonger plusieurs heures. C'est une anesthésie générale. Ça peut être 2, 3, 4 heures. Et en fonction des dosages qui étaient administrés, elle pouvait plonger parfois même jusqu'à 6 heures. Et la majorité des agressions qui sont commises sur ma mère se déroulent évidemment dans sa chambre, dans son lit, dans sa maison. Et pas que. Il y a aussi des agressions qui se sont déroulées dans des lieux publics. Je parle d'aires d'autoroute. Et puis il y a des agressions qui se sont déroulées chez moi, dans ma maison, ici, en région parisienne, où, alors qu'on était en vacances, avec mon fils et mon mari, lui a fait venir des inconnus pour violer ma mère. Tous les moments où elle était dans cette forme d'errance, c'était ça, en fait. C'était l'effet des médicaments qui lui donnaient à ces fins-là. Et alors là, c'est la colère, l'incompréhension, enfin, c'est atrocement douloureux, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, ça peut pas être mon père. Là, d'un seul coup, si vous voulez, c'est comme s'il y avait un masque qui tombait, et je me dis, mais en fait, tu connais pas ton père. Ton père, tu le connais pas. On se dit, mais c'est pas possible, je vais me réveiller. Et puis la personne que je connais, enfin que je croyais connaître, ne peut pas être capable de ça. C'est tellement inhumain comme traitement. Donc le lendemain matin, mes frères et moi, on saute dans un train et on arrive en fin de matinée à Avignon, dans cette gare où on avait l'habitude d'être réceptionné par notre père. Et puis on arrive au commissariat de Carpentras pour parler à l'officier de police qui est en charge de l'enquête depuis 2 mois, puisqu'en fait la raison pour laquelle mon père il a été convoqué le 2 novembre au matin là, au commissariat de Carpentras, c'est parce que il s'est fait prendre en train de filmer sous les jupes de 3 femmes au magasin au Leclerc de Carpentras 1 mois et demi avant, en septembre. Il est donc surpris par les vidéosurveillances de sécurité. Il va être interpellé à ce moment-là. Les 3 femmes vont aller porter plainte, et heureusement, il va être emmené au poste de police. Et ce jour-là, ils vont prendre toutes ses affaires. Et en saisissant son téléphone, ils vont s'apercevoir qu'il détient des images où ils voient très vite qu'une femme d'une 60aine d'années, inanimée, est en train de se faire violer par d'autres hommes. Et donc, ils vont aller perquisitionner le domicile. Dès mi-septembre, en fait. Hein. Simplement, ma mère n'est pas là à ce moment-là. Elle est chez moi, en région parisienne. Et lui va garder ça pour lui. Il est à 10 000 d'imaginer qu'il va être pris, que les officiers de police ont vraiment travaillé très dur sur son matériel informatique et qu'ils vont découvrir plus de 20 000 vidéos et photographies à caractère sexuel et pornographique. C'est la raison pour laquelle il est convoqué. Alors lui, il pense qu'il va récupérer son ordinateur le 2 novembre. Et en fait, on lui dit « Bah non, monsieur, là, il y en a des choses à vous dire et je pense que vous avez aussi des choses à nous dire. » Donc c'est vrai que là, pour nous, de l'entendre de la bouche d'un officier de police, c'est comme si la terre tournait à l'envers. Ah, on patauge dans la boue, oui. Mais je sais que moi, je vais rentrer dans une lutte et dans un combat. Ben voilà, c'est terminé, quoi. J'enlève ma cape de petite fille. Il y a quelque chose qui meurt, qui se coupe à l'intérieur, en fait. C'est comme si je coupais l'affiliation que j'avais jusqu'ici avec cet individu. On repart avec notre maman au domicile. Et là... Très vite, on se dit qu'elle ne peut pas rester dans cette maison. Parce que, bien évidemment, tous ces individus qui sont venus, eux, pour le coup, sont dehors. Et qu'à tout moment, s'il faut, ces mecs-là peuvent revenir, quoi. Même moi, je dois dire que je me sens vraiment en insécurité dans cette maison pour passer la première nuit. Et en fait, vers 17h30, mon téléphone sonne. Et c'est le même officier de police qu'on a vu quelques heures auparavant, qui me dit « Madame... il faudrait que vous repassiez au commissariat, j'ai des clés USB à vous remettre, il faut vraiment que vous veniez. » Et là, en fait, je comprends que dans l'intonation, il ne peut pas tout me dire au téléphone. Et donc, je reviens au commissariat et je suis reçue par 2 officiers de police qui vont me dire « Écoutez, on a 2 photographies à vous montrer, on pense que c'est vous, mais on a besoin que vous puissiez vous identifier. » Et donc, ils vont me montrer un premier cliché où je vois cette jeune femme allongée sur le côté, où on voit ses fesses en gros plan avec de la lumière, la couette relevée sur le côté. Et en fait, c'est comme s'il y avait une forme de dissociation à ce moment-là qui s'opère. Tellement c'est inattendu et je ne me reconnais pas tout de suite. Ils mettent cette première photo de côté, ils montrent une deuxième. Effectivement, la deuxième femme ressemble étrangement à la première, positionnée de la même façon. Et là, je re-regarde cette femme, et en fait, je me découvre. Et là, je me dis, putain, c'est pas possible, c'est... Oui, c'est moi. Et à ce moment-là, je dois porter plainte contre mon père. Et ce que je saurai après, c'est que ces photos ont été diffusées sur Internet et ont été commentées. Mais déjà, ça, encaisser, c'est très, très, très lourd. Et je fais une première crise de tétanie dans le bureau, où là, si vous voulez, le corps lâche, quoi. Ça se répercute sur l'organisme. C'est tellement violent, en fait, de découvrir que mon père m'a photographié à mon insu dans des postures plus que suggestives.
Mmh.
Les policiers vont également trouver des photographies de mes deux belles-sœurs prises à leur insu. Alors elles sont parfaitement conscientes. Elles sont soit dans la douche, soit en train de s'habiller, soit... Bon voilà, c'était un peu je trouve tout, hein, parce qu'ils mettaient des caméras un peu partout quand ils venaient voir ses petits-enfants chez ses enfants et ses belles-filles. Parfois même, il a fait des montages assez scabreux avec ses photographies. Et évidemment, ces photos ont été partagées et commentées sur Internet. Et je vous passe les légendes parce que c'est inaudible. C'est un choc terrible. Enfin, c'est hyper dégradant, en fait. On se retrouve avec mes deux frères face à une réalité qu'on n'avait jamais soupçonnée. On découvre qu'on est les enfants, sans doute, d'un des plus grands prédateurs sexuels des 10 ou 20 dernières années. Et là, je peux vous dire que à encaisser, c'est très très difficile, c'est très compliqué. Les jours qui suivent, d'abord je dors pas la nuit, parce que j'ai peur qu'à tout moment quelqu'un, un de ces individus vienne. Je mange pas, je suis nouée, c'est un cataclysme en fait. Hein. Et il faut qu'on vide un maximum de choses de la maison. En fait, c'est comme s'il fallait nettoyer toutes les preuves du passé, de ce qui peut nous raccrocher à notre vie d'avant. Donc on se met à vider un maximum de choses. On va même jusqu'à vider toutes les photos de famille, quoi. Et on rentre en région parisienne le vendredi. Je vais me reposer un peu et en sortant de ma sieste, on apprend que le commissariat, il y a une fuite et ça part déjà sur Actu 17. Et là, on sait que bon, ça va partir potentiellement dans la presse. On vit avec une bombe à retardement en permanence, quoi. Et moi, ce soir-là, je vais faire une crise d'angoisse très, très prononcée, une forme de désespoir absolu, où je réalise, en fait, tout ce qu'on est en train de vivre et l'horreur qu'on est en train de traverser. Je finis aux urgences, et le lendemain matin, ils vont me transférer côté psychiatrie. Et franchement, là, ça va être 48 heures où ça va être très difficile, parce que c'était tout, sauf l'endroit où il fallait que j'atterrisse. Et... je finis par sortir avec une liste de médicaments longs comme le bras et je rentre chez moi et je suis évidemment en arrêt maladie à ce moment-là. Mais je ne vais pas m'arrêter très longtemps, je vais m'arrêter peut-être 3 semaines. Et après, je vais éprouver le besoin de retrouver une vie normale. Mais c'est les 3 premières semaines où tout est à faire, il faut choisir l'avocat, il y a plein de paperasse. C'est, en termes de charge mentale, c'est lourd, quoi. Sans compter le fait qu'il va falloir qu'on explique à notre fils, à ce moment-là âgé de 6 ans, qu'il ne reverra sans doute plus jamais son grand-père. Et on va devoir lui dire que son grand-père est en prison parce qu'il a fait des choses très graves et qu'il ne le reverra sans doute jamais. Là, c'est voir la tristesse dans les yeux de mon fils, c'est un crève-cœur. Un crève-cœur. L'affaire, elle est prise en main par le commissariat de police d'Avignon avec une cellule spécialisée. Hein. Ces officiers de police vont, eux, aller interpeller les auteurs des viols commis sur ma mère. Ces auteurs sont entendus pendant 48 heures et dans la majorité des cas, ils avouent. Et derrière, ils sont transférés devant la juge d'instruction qui va les incarcérer pour la majorité. Ça va être des vagues de 10 et ça va durer... presque plus de 10 mois pour aller interpeller tous ces gens-là. Aujourd'hui, à l'issue de l'instruction, ce que je peux dire, c'est qu'ils ont été 83 identifiés, 51 incarcérés, écroués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une trentaine de mecs dans la nature qui ont œuvré et qui continuent d'avoir une vie normale. Je suis scandalisée. C'est quand même des agresseurs qui ont entre 22 et 71 ans, mais la majorité de ces personnes ont entre 30 et 45 ans. Et c'est monsieur tout le monde, issu de toutes les catégories socioprofessionnelles. La majorité sont des pères de famille, très bien insérés dans la société. C'est votre voisin, c'est votre collègue de travail, quoi. Il y a des artisans, il y a des entrepreneurs, il y a même un journaliste, il y a des cadres sup... Il y a aussi des chauffeurs routiers, il y a de tout en fait. C'est un échantillon représentatif de la société française. La majorité de ces hommes n'ont pas de remords. Très très peu ont exprimé le besoin de présenter des excuses ou ont réalisé la gravité de ce qu'ils ont pu faire. La majorité de ces hommes, dans leurs propos, considèrent que, puisque monsieur était présent, le consentement était de facto acquis. Dans la tête de ces mecs-là, de toutes ces personnes, à partir du moment où le mari décide de disposer du corps de sa femme et d'en faire ce qu'il veut, ça ne pose aucune question, aucune interrogation, ça paraît normal. Une bonne partie ont quand même essayé de dire qu'ils ont pensé à un jeu de couple, que madame jouait la comédie, par exemple, que c'était un jeu de couple libertin, que ça paraissait crédible. Certains d'entre eux reconnaissent qu'elle n'était pas dans son état normal, mais majoritairement, ils se sont pas posé la question, quoi. C'était comme ça, ça faisait partie du plan, ça faisait partie du délire. Ça révèle qu'il y a un vrai problème d'éducation sur la notion de consentement, sur le respect de la femme, quoi. La place de la femme dans notre société, dans la tête de la majorité de ces personnes-là, c'est normal d'utiliser une femme pour se faire plaisir, sans considérer ce qu'elle peut penser, ressentir. C'est très très grave. Hein. Surtout sur des personnes qui font partie de ma génération, je me dis, mais ça va pas bien, quoi. Le premier viol recensé de ma maman date du 23 juillet 2011 en région parisienne. Et ça s'est arrêté en novembre 2020. Dernière opération organisée par mon géniteur le 23 ou 22 octobre 2020. Donc ça a duré presque 10 ans. Et ça doit représenter une centaine, plus d'une centaine d'agressions ou de viols. Mon géniteur a reconnu les faits pour ce qui concerne ma maman. Il a reconnu l'avoir droguée, l'avoir soumise chimiquement, l'avoir violée. Et l'avoir violée rarement pour son plaisir personnel, hein, puisque lui, il l'a droguée pour la voir se faire violer par d'autres. Et sans aucune rétribution financière. Donc on est vraiment dans un degré de perversion et de pathologie au sens psychologique, psychiatrique. Les experts psy disent très clairement qu'il est en pleine possession de ses facultés mentales et intellectuelles. Il y a une déviance autour du voyeurisme, il est fétichiste, mais c'est surtout un grand malade sexuel, en fait. C'est un grand malade. Pour que la sédation opère le plus longtemps possible, ça nécessite l'augmentation de doses. D'où l'administration de doses qui pouvait être extrêmement dangereuse. Entre 2011 et 2020, où ça s'est arrêté, les doses étaient de plus en plus exponentielles. Et ça aurait pu lui coûter la vie. Elle aurait pu sombrer dans un coma, faire un arrêt cardiaque. Cette affaire, elle a détruit notre famille. Elle a détruit une partie de mon enfance, une partie de mes fondations aussi. Et ces souvenirs qui me reviennent de temps en temps, que je préfère balayer et chasser d'un revers de main, parce que c'est trop difficile d'avoir à se dire que on a vécu à côté de quelqu'un sans savoir qui il était véritablement, quoi. Je comprends que ma mère ait choisi l'anonymat. C'est une partie de sa vie qui est meurtrie. Qu'elle veuille se préserver, c'est bien normal. Elle, ce qu'elle veut, c'est ne pas avoir à penser à ça tous les jours pour vivre correctement. Je comprends que ma mère ne soit pas du tout dans la même dynamique et dans la même ambition que moi. Le procès doit se dérouler avant juin 2024. Je suis absolument pas prête à ce procès. Si j'avais le choix de ne pas y aller, je n'irais pas. Je suis pas prête, et je crois qu'on le saura jamais d'ailleurs, à revoir mon géniteur, menottes au poignet, après 3 ans d'incarcération. Je suis pas prête à la violence de ce qu'on va vivre encore, enfin, une autre forme de violence et d'irrespect, parce que ça va être aussi la stratégie des avocats de toutes ces parties prenantes. C'est difficile de se dire on va devoir être vent debout cette personne que l'on pensait connaître et aimer surtout. Donc c'est apprendre à désaimer quelqu'un qu'on a aimé comme un enfant peut aimer son père. Heureusement, ça s'est arrêté. Heureusement, il est enfermé. Heureusement, il n'y a pas d'autre solution que la prison, même si je pense que ça ne règle pas tout, mais au moins, il est mis hors d'état de nuire. J'ai lancé le mouvement M'endors pas, stop à la soumission chimique, qui vise à alerter, à sensibiliser, à prévenir sur ce qu'est la soumission chimique aujourd'hui en France. On sait bien que malheureusement, c'est souvent les familles de victimes ou les victimes elles-mêmes qui œuvrent pour la collectivité une fois qu'on a vécu quelque chose de dramatique. Le vrai sujet, c'est une forme de prise de conscience. Avoir conscience que ça peut arriver, se dérouler chez vous, avec quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est un vrai travail à opérer.
C'était « Contre la soumission chimique, pourquoi je lutte ?» un reportage d'Anna Benjamin réalisé par Eric Lancien et mixé par Grégory Vallon. Merci à Caroline Darian, à Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre, ainsi qu'à Hortense Martin, notre stagiaire.
I bet she told a million people that she'd stay.